Moi, je prends le bain d'une maille au capteur oriental. J'ai réussi totalement ces
histoires. Moi, j'ai essayé de combattre au cas de langage, en combinant les deux avec mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le Burundi, la Gambie et l'Afrique du Sud ont annoncé leur retrait du statut des Roms. Ces pays et nombreux d'autres pays africains reprochent au tribunal de la Haye de ne juger pour le moment que des dirigeants africains. Cette option était déjà levée depuis près de 3 ans par l'Union africaine après que la CPI ait lancé des mandats contre certains présidents du continent. Que pensez-vous de ces annonces de retrait? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Julie Pesa Bongonda est au standard, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Sebou-Jangui et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Laboum Andy. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Maître Okonji Ostango Emmanuel, avocat au barreau de Mbandaka et président de l'Observatoire national des prisons. Voilà. Bonjour Maître.
Bonjour Dieu.
Alors d'entrée des yeux, quel est le commentaire que vous faites personnellement par rapport à cette annonce de retrait de quelques pays africains de la CPI?
Bon, nous pensons que ce qui se passe actuellement n'étonne personne, parce qu'il fallait s'y attendre depuis que l'Union africaine avait pris position. Et bien, bon, c'est tout à fait normal pour l'instant. Nous n'avons peut-être pas sur cette étape un commentaire à faire.
Alors, il y a certains observateurs qui estiment que c'est non événement, dès lors que l'article, une des dispositions du statut des Roms, prévoit déjà le mécanisme de retrait.
Oui, c'est possible. Bon, à l'état actuel, nous pensons que ce ne sont que des annonces, parce que même si déjà le Burundi a déjà notifié à la CPI, mais il va falloir une année. Il va falloir une année pour que ce retrait puisse être effectif. Bon, dire que c'est un événement quelque part, ce qui inquiète un peu, c'est la réaction de la CPI. Parce que c'est vrai, les uns peuvent évoquer telle ou telle autre raison, mais pour la CPI, il y a problème. Il y a problème parce que dès lors qu'il y a des retraits comme ça, il devait se remettre en question. La CPI devait se remettre en question. Nous pensons que ce n'est pas encore le cas. Il semble ne pas être étonné outre mesure par ce qui se passe. Donc, logiquement, il devait se remettre en question.
Alors, toujours dans les dispositions du statut, il est clairement dit que le retrait est prévu, mais cela ne déroge pas, en fait, ne donne pas le droit à l'État qui se retire de se soustraire des obligations qu'il avait déjà signées, notamment le respect des droits de l'homme.
Non, c'est vrai que quelque chose change dès lors que les gens ont d'abord accepté de venir
librement
et puis décide de se retirer, il y a problème. Parce que c'est quoi? C'est que entre la cour et les justiciables, la relation devait être une relation de confiance. Donc il devait y avoir une belle complicité entre la cour et les justiciables. Mais dès lors que la cour, dès lors qu'il y a des États qui commencent à se retirer, la cour, comme nous l'avons dit, devait se remettre en question.
Il devait... à chaque observateur, comment commentez-vous ces retraits? Est-ce qu'ils sont vraiment motivés, ces retraits? Parce que, au regard de toutes les motivations présentées par les uns et les autres, on se rend compte que tout le monde, en fait, reproche à la cour sa partialité, en fait. Le fait de juger que les Africains, ça prouve absolument que la cour, elle n'est pas vraiment universelle.
Bon, là, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, lorsqu'on voit les motivations de l'Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec la partialité. et c'est plus une question de souveraineté, une question d'affirmation. Ils veulent affirmer leur leadership. Bon, lorsqu'on voit la Gambie, bon, ce sont toutes ces fallacieuses raisons. Il n'y a pas eu de référendum.
Mais ce qui étonne plus d'un, la Gambie, laquelle Mme Bekida, elle est gambienne.
Oui, ça, et c'est vrai que j'étais en train de dire qu'il n'y a pas eu de référendum en Gambie. Pour que les décisions soient prises, il n'y a pas eu de référendum. Nous, nous disons que ça dépend de quel côté on se trouve. Bon, il y a les États, il y a les dirigeants, il y a les justiciables, il y a des victimes. Donc, ça dépend de quel côté on se trouve. Donc, il y en a qui redoutent.
Est-ce qu'on peut confirmer ou affirmer aujourd'hui que la CPI n'a pas atteint son objectif, celui d'une juridiction de remplacement, la justice nationale, par exemple?
Bon, la CPI ne vient pas remplacer la justice nationale, ça c'est faux. La CPI intervient là où la justice nationale n'a pas été capable de faire quelque chose, ou n'a pas été capable de bien faire quelque chose. Donc, la CPI fait son travail, les nationales font leur travail, mais il y a lieu d'affirmer qu'aujourd'hui, aucun pays africain n'a pas une justice internationale fiable.
Le Sénégal, par exemple.
Oui, le Sénégal, mais vous vous rappelez que le Sénégal a dû demander l'aide pour organiser un procès, le procès sur la brèche. Donc, ça veut dire que le Sénégal, lui tout seul, n'était pas capable d'organiser correctement ce procès. Donc, nous disons que la
CPI. Alors, selon vous, quelles peut être la conséquence, ou quelles sont les conséquences dans les jours à venir, du moment où, dès qu'on arrive, par exemple, à réunir un nombre important, par exemple, des retraits de pays africains? Parce qu'ils sont majoritaires, quand même, parmi les signataires de ce statut de Rome.
Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Pour l'instant, la CPI va continuer à rendre justice. Bon, mais il faut quand même avouer que la CPI a beaucoup fait pour l'Afrique.
C'est la CPI est tutelle de Nations Unies.
Bon, c'est qu'ils le disent, ils savent pourquoi ils le disent.
Non, parce que là, le statut, il est bien écrit.
Bon, écoutez, là, la CPI va continuer à faire son travail. La CPI va continuer à rendre justice, parce que j'étais en train de dire qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui en Afrique qui soit capable d'organiser une justice internationale crédible. Et la CPI a encore son rôle à jouer aujourd'hui. Et nous pensons qu'elle va continuer à jouer.
Merci beaucoup, Maître Koudji. On va ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs afin d'échanger de manière citoyenne dans ces débats de parole aux auditeurs. Et nous vous rappelons que vous pouvez également nous contacter au 081-890-6315 pour intervenir en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où se tient d'ailleurs ces débats autour des annonces de certains pays et de la CPI.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiookapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiookapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Jean-Max, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour J.R., bonjour à tous les Congolais, bonjour à tous les Africains et bonjour à tous les citoyens du monde.
Alors, vous avez déposé, vous avez posté votre commentaire sur notre page Facebook en évoquant, bien entendu, l'article 127 du statut des Roms et aussi l'article 27. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer, qu'est-ce que vous avez voulu dire par, les responsables des États veulent esquiver l'article 27 du statut des Roms qui pose les principes du défaut de pertinence et de la qualité officielle?
Effectivement, monsieur le journaliste, le retrait est prévu au sein du statut de Rome et que l'article 127 qui le prévoit, cela n'est pas un problème. Les États peuvent donc se retirer. Mais le problème qui est là, c'est que ce sont les présidents, l'union des présidents, qui ne veulent plus se faire attraper par cette justice internationale, parce que, comme on le sait tous, ce sont eux qui sont généralement la base des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et c'est généralement ces présidents-là qui ont ratifié les statuts de Rome, tout en oubliant qu'il existait là un principe qui est celui des pertinences, des défauts de pertinence de la qualité officielle. C'est-à-dire, peu importe la qualité officielle, peu importe les fonctions que vous exercez, que vous soyez membre d'un gouvernement, chef d'État, vous n'allez pas échapper à la justice de la Cour pénale internationale. C'est également le problème qui a motivé ce retrait. C'est également le fait que la CPI puisse lancer un mandat d'arrêt contre un président en fonction, le président soudanais Omar al-Béchir. C'est ce qui a beaucoup plus motivé cette décision des pays États, des pays africains de pouvoir se retirer ici de Rome. Donc si on voit clair, c'est parce que beaucoup de nos dirigeants ne peuvent plus être poursuivis par la Cour pénale internationale. C'est pourquoi ils veulent tout simplement se retirer de ce statut. Et je doute fort que la population soit d'accord avec eux. Parce qu'ici, il faut faire un sondage ici à Beni. Tous les citoyens de Beni ne seront pas d'accord parce que ce sont eux qui subissent généralement ces crimes, ces actes qui ne sont insupportables. Je doute fort que ces citoyens puissent être d'accord que la RDC, par exemple, puisse se retirer du statut de Rome. Sinon, ils seront tout à fait exposés. Et moi, personnellement, je n'encourage pas le fait que les Africains puissent se retirer du statut de Rome, parce que cela
vous craignez quoi exactement?
En fait, tout ce que je crains, c'est que les États, les responsables du pays d'Afrique, tous les présidents, généralement sont auteurs de certains crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale. Et si la CPI a été instituée, c'est pour mettre fin à l'impunité internationale. Répète tous les actes qui touchent à la conscience universelle. Et le fait pour ces États de se retirer, pour moi, n'est même pas une garantie totale. Parce que parmi les trois modes de saisine de la Cour pénale internationale, il y a un qui va subsister, le renvoi d'une situation par le Conseil de sécurité. C'était le cas avec le Soudan qui ne fait pas partie au statut de Rome, mais dont le président a été poursuivi. C'était également le cas avec la Libye qui a été concerné par une situation devant la Cour pénale internationale.
Mais alors, vous ne faites pas cette observation comme l'ont fait certains parmi vous sur les nets, qu'en disant aujourd'hui, on a l'impression que la CPI, et sous la tutelle quand même de Conseil de sécurité des Nations Unies, à ce niveau, donc il n'y a pas à redouter, à craindre quoi que ce soit, d'autant plus que tous les crimes qui sont condamnés aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme seront toujours poursuivis par les Nations Unies. Et de ce quoi, les autorités ou les responsables, les dirigeants africains qui seront auteurs ou encore co-auteurs, ils seront sanctionnés de manière ou d'autre.
La tutelle des Nations Unies, ça c'est une imperfection que j'ai relevée du statut de Rome parce qu'il y a le Conseil des Nations Unies qui peut interférer dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Rien n'est parfait, le statut ne l'est pas très certainement. Je n'en disconviens pas. Mais mon problème est que s'il faut seulement s'y tenir à ce que les États se retirent, cela n'arrangera pas les choses et ne va même pas faire avancer l'objectif que c'était à assumer tous ces États, parce que ce sont les États africains qui ont également lutté pour que la CPI soit en quelque sorte un peu distant des Nations Unies par rapport à ce que voulaient les États-Unis, par exemple. Ce sont les États africains qui se sont donnés à fond pour que le statut de Rome soit adopté et soit également entré en vigueur. Ce sont majoritairement les pays africains qui font partie de ce statut. Et moi, je suis personnellement déçu du fait que actuellement ces pays ne veulent plus
Merci beaucoup, Max, de votre description. Bon, on comprend tout de même. Vous l'avez dit, c'est non événement, comme nous l'avons dit au début de cette émission avec notre invité, que le retrait est prévu dans les statuts des Roms. Alors, ce sont plutôt, selon vous, les manœuvres dilatoires des dirigeants, certains dirigeants, pour ne pas tous les mettre dans le sac, certains dirigeants africains qui sont auteurs des crimes qui sont condamnés par les statuts des Roms, qui veulent à tout prix échapper ou esquiver à l'article 27 du statut des Roms. Et vous exprimez donc votre déception et vous craignez donc l'effet subitement par la suite. Merci Max. Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je crois que de la compte de ce que l'invité et le premier auditeur ont dit, ils ont essayé de balayer ce que j'avais prévu comme intervention, mais n'empêche que je puisse poser un mot et avec certaines nuances. D'abord, l'auditeur est plus faux. Est-ce que le fait pour un État membre du statut de Rome exprime sa volonté de quitter ou de se retirer du traité, c'est pas du tout un péché. Il est normal qu'un État puisse se retirer de la Cour pénale internationale parce que le statut de Rome lui-même prévoit cette possibilité. Donc, en tant qu'un État souverain, on peut décider de rester ou tout comme de sortir. Mais il faut se poser ici, un problème de mobile. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi les États africains veulent-ils se retirer de la Cour pénale internationale. En fait, si c'est parce qu'ils estiment que certaines dispositions du traité vont dans le sens de créer un certain déséquilibre entre États membres, tant pis. Mais, même dans ces cas, il se pose un problème de maturité de temps. Est-ce que ce n'est qu'en 2013 que les États africains ont senti ces déséquilibres? On dit non. Parce que déjà en 2003, les ressortissants africains ont été poursuivis par le pénal international. On se souvient de l'affaire Thomas Lubanga, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, est la première affaire à recevoir un jugement définitif de la Cour pénale internationale. Le vrai problème, c'est que les Africains cherchent à tout prix protéger les intérêts de leur père mutuellement. C'est en 2013 là, les chefs d'État africains réunis au sein de l'Union africaine ont exprimé cette volonté là de quitter la CPI plus qu'un certain nombre de leurs pères est visé par un mandat d'arrêt contenant de la Cour pénale internationale. Mais JR, savez-vous que l'exclusion des héritiers de la Cour pénale internationale n'est pas une solution incontournable? Savez-vous que l'on peut les contourner? Il y a un auditeur qui vient de me dire qu'en fait, même si toute l'Afrique s'est retirée de la CPI, ses ressortissants, ou plus précisément les chefs d'État africains, peuvent se voir toujours concernés par un mandat contenant de la CPI. Aussi longtemps que les États africains sont membres de l'ONU, on ne peut pas dire que la décision de retrait est une meilleure solution, puisque dans le monde des saisies, l'auditeur l'a dit de la Cour, il y a aussi le Conseil des sécurités des Nations Unies qui peut saisir la Cour. Donc, on peut comprendre que le statut de Rome, malheureusement, a organisé une sorte de compétence universelle, puisque, au niveau interne des pays membres, les États eux-mêmes peuvent saisir la Cour pour des situations qui se sont passées sur leur territoire. De deux, concernant l'ensemble des États membres de la Cour pénale internationale, il y a les procureurs qui peuvent également saisir la Cour. De trois, il y a aussi les conseils de sécurité qui peuvent saisir la Cour pour des situations qu'on a sur le territoire de tous les États membres de l'ONU. Donc, en principe, ces mouvements des retraits de la CPI qui souffrent en Afrique est un vrai mot, étant donné que il y a des techniques pouvant le contourner. Mais si je termine par là, l'essentiel c'est que les États africains protège les grandes puissances, soit certains pays où il a ses intérêts. Voilà le mal, c'est le pouvoir qu'on a au Conseil des sécurités.
Oui, Kevin. Oui, mais alors, oui. Au regard de procédures à suivre pour les cas de saisine de la Cour, mais est-ce que vous n'estimez pas comme les autres qu'aujourd'hui, ces dirigeants sont aussi, de manière un peu tacite, protégés par le statut des Roms? Le fait de, dire clairement dans les dispositions du statut que c'est le gouvernement, les États qui peuvent saisir la Cour, notamment le chef du gouvernement, ne leur donne pas l'occasion parfois de rester en bon terme avec la CPI. Le fait de se retirer et que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le fait d'avoir maintenant cette autorisation de saisir la Cour pour le cas de crimes contre l'humanité, et ça expose quand même certains dirigeants. Donc c'est comme si ils veulent quitter, changer, déshabiller ses pôles pour habiller ses pierres.
Certainement, je l'ai dit que c'est une solution contournable. Tout de suite, là, je reconnais que il est normal qu'un État puisse se retirer de la Cour pénale internationale. Mais par la suite, vous avez dit que c'est une solution contournable. Même si vous, vous ne faites plus partie du statut des Roms, que vous estimez que, en vertu de principe qui fait que la CPI n'est plus inclusive que les États membres, il y a les conseils de sécurité qui est là, parce qu'on est aussi membre de l'ONU.
Voilà, merci beaucoup. Merci Kevin d'avoir contribué dans cette émission. On prend Alain Boulogeois qui est à Kinshasa. Alain, bonjour.
Bonjour, Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Alors Alain, il y a Kevin qui a proposé, en fait, au lieu de se retirer, il demande à ce qu'il fait un plaidoyer, hein, pour que les États puissent s'arranger ou chercher comment arranger cette inadéquation en révisant certaines dispositions du traité.
Bon, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. C'est une manière de faire pression à la Cour ou carrément aux Nations Unies pour revoir ces stratégies qui tendraient à victimiser, à rendre plus justice au niveau de l'Afrique au détriment de la justice elle-même. Comme vous le savez, si on avait eu l'initiative de créer cette Cour, c'était tout simplement pour qu'il y ait un certain équilibrage au niveau international. Il y a certains États tels que les États-Unis qui ne sont pas signataires, qui ne sont pas liés par la Cour ou la Chine. Les deux pays qui ont une certaine influence au niveau du Conseil de sécurité ne sont pas membres, n'ont pas signé cette tout cela met en mal le fonctionnement.
Voilà, allez, vous sortez à découper. Est-ce que vous pouvez peut-être changer votre position?
Oui, je disais, dans son aspect, dans sa dimension politique, la Cour devrait jouer le rôle d'équilibre mondial. Mais malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que cette Cour est plutôt au service de la communauté internationale et plus précisément de puissance. Lorsqu'on voit le nombre d'États traités par la Cour, alors que nous voyons, il y a certains États qui vont à l'encontre du principe même de l'égalité entre les États, du principe même de la justice internationale, et que ces États ne sont pas inquiétés par la Cour, on peut se dire que la Cour est plutôt au service des multinationales. Chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'Afrique, on voit la Cour intervenir. Mais lorsque nous voyons des actions qui sont posées par la France, par exemple, au niveau de l'Afrique, ou les États-Unis au niveau de l'Afrique, on ne sent pas cette Cour. La France a la facilité d'intégrer une telle organisation parce que la France est habituée à avoir au-dessus d'elle des institutions supranationales. Mais nous, au niveau de l'Afrique, si nous avons ratifié ou si nous avons accepté que cette Cour puisse être une juridiction supérieure aux juridictions nationales, c'est parce que nous avons senti effectivement qu'au niveau interne, nous avons des faiblesses. Mais le souci majeur, c'était de voir qu'il y ait une certaine égalité en termes de traitement. Malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique se rend compte que la Cour est plutôt au service des économies. Comme il y a un auditeur qui l'a dit, chaque fois qu'il y a des crises au niveau économique, chaque fois qu'il y a des positions qui ne satisfont pas les exigences de la communauté internationale ou de puissance, eh bien, on utilise cette Cour pour carrément mater ou dompter nos dirigeants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il serait aussi hasardeux de prendre la décision de quitter la Cour. C'est vrai. Mais ce qui est important de mon point de vue, eh bien, on doit faire pression à la Cour pour qu'elle soit de plus en plus indépendante. Pour qu'elle arrive aussi à montrer à la face du monde qu'elle bénéficie d'une certaine crédibilité.
Disons, bon nombre de gens craignent cet effet subit, là, pour qu'il y ait encore d'autres pays, après la Gambie, l'Afrique du Sud et d'autres. Voilà, disons, mettons-nous par exemple devant un cas de figure, dans le sens que la RDC annonce également aussi son retrait. Est-ce que vous allez redouter quelque chose?
Non, du tout, parce que juste à cause du contraire, nous ne sentons pas la différence entre l'existence de la Cour et son absence. Parce qu'il y a des cas, au niveau de l'Afrique qui nécessitaient à ce que la Cour puisse intervenir. C'est vrai, vous prenez le cas de Jean-Pierre Bemba. Au départ, Jean-Pierre Bemba bénéficiait d'une présomption d'innocence. Mais pour que la justice soit dite, ça a pris pratiquement 10 ans. Supposons qu'il était innocent. C'est-à-dire qu'il allait passer toute sa vie en prison tout simplement parce que la démarche de la Cour ne s'adapte pas aux questions ou aux dossiers qu'on est en train de s'appeler à traiter. Donc, quelque part, c'est que moi, je vous ai dit, la démarche de la Cour ne rassure pas. Nous, nous considérons la République démocratique du Congo comme un partenaire de la Cour. Mais alors que la Cour elle-même déjà est entachée, son image n'est pas assez propre. Elle a terni son image par le fait qu'elle devient de plus en plus dépendante de grandes puissances économiques. Et bien, on peut mettre en doute sa crédibilité, sa capacité à résoudre le problème. Voilà pourquoi moi je dis, la Cour doit avoir le courage de rassurer les partenaires, doit avoir la capacité de rassurer les partenaires, au cas contraire, ça ne servirait à rien, d'avoir une
suffisance. Voilà. Alors, merci beaucoup Alain. Et quand vous parlez de la Cour qui doit rassurer les partenaires, il y a des réactions déjà sur notre page Facebook. D'aucuns disent, rassurer les certains dirigeants qui sont auteurs des crimes, ou bien rassurer tous les États, bien entendu, en protégeant également la population qui, du reste, est en majorité victime. Merci beaucoup Alain. On va prendre Raphaël qui est à Kindou. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Alors, Alain Bologna disait tout à l'heure que la démarche de la Cour doit plutôt aller dans le sens de rassurer, ne rassure pas les concernés. Bon, je ne parle pas des dirigeants ou des États.
Bon, merci beaucoup pour la parole. Et je voulais dire que les mêmes acteurs africains qui aujourd'hui sont en train de baptiser la Cour, ils ont participé activement à la conception, à l'adoption des statuts des Roms, et ils ont même ratifié les statuts des Roms pour que la Cour pénale puisse avoir des effets dans leurs pays respectifs. Et dans notre pays, par exemple, c'est la République du Congo qui était le 60e État, je voulais dire, qui a déclencher les mécanismes de mise en vigueur de la Cour. Nous étions les tout premiers États à appeler la Cour, notre président de la République a appelé la Cour pour qu'elle puisse venir enquêter dans notre pays, et puis c'est les tout premiers dossiers c'était dans notre pays. Alors, nous avons mis à contribution notre armée, notre police, notre service de sécurité pour appréhender les fugitifs ou bien les accusés. Alors, je ne comprends pas comment les présidents africains qui ont contribué si activement, ils se sont rendus compte que leur justice est au niveau interne.
Voilà, vous estimez que c'est vraiment paradoxal, hein? Voilà, on comprend. Donc, vous avez exprimé ce paradoxe-là. Voilà, d'un côté, on adopte, on active la machine, et de l'autre côté, bon, on se sent maintenant en insécurité. Comme l'a dit également Alain Bologna, ça ne leur rassure pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on puisse repenser un peu certaines dispositions des statuts des Roms. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission.
Au Congo, les communes de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre de sang citoyen. Nous avons dans ce studio Maître Koji Osango Emmanuel, qui est le président de l'Observatoire national des prisons. Alors, Maître, vous venez de suivre cette série des auditeurs et il se dégage beaucoup d'analyses. Il y a Kevin qui a beaucoup plus insisté sur le fait de faire plaidoyer dans le sens de pouvoir repenser un peu certaines choses. l'adoption des statuts des Roms pour, en fait, éviter cette inadéquation qui constitue aujourd'hui les mobiles hein, pour les uns et les autres et qui justifie d'ailleurs leur retrait de cette juridiction. Il y a Alain Bologna qui dit que la Cour, finalement, ne rassure pas. Plutôt, il devait jouer son rôle de compétence universelle. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres?
Moi, je pense qu'il y a à boire et à manger dans ce qui a été dit. Et je m'inscris en cours lorsqu'on dit que la Cour n'a rien fait. La Cour a fait quelque chose pour rien que notre pays. La Cour a permis quand même de criminaliser la situation chez nous. La Cour a permis de dissuader certains hommes politiques, vous venez parler de, par exemple, de Bosco Tanganda et autres. Donc la Cour a quand même fait quelque chose. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Cour n'a rien fait, la Cour a quand même travaillé chez nous. Mais nous pensons qu'il est pas mal.
Mais le fait que de ne juger que les Africains, c'est là où le bas blesse.
Bon. Vous savez, les enquêtes ne sont pas seulement là.
Charles Taylor, oui. Babou, Jean-Pierre Bemba, vous ne pas les citer.
Tout à l'heure, il y a un auteur qui a dit ça. Il y a les États africains eux-mêmes qui appellent la Cour.
C'est les États africains. Dans le monde des saisines, voilà, il y a les États qui appellent.
Donc, oui. Alors, la Cour vient récemment, le Gabon. Et le pouvoir et l'opposition, ils ont tapé la Cour. Donc la Cour ouvre l'enquête. C'est seulement après les enquêtes qu'on peut déterminer s'il y a lieu de l'en penser. Donc les Africains devraient garder leur mal à patience, laisser la Cour travailler et puis voir ce qui peut être fait. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas moyen, qu'il n'y a pas lieu de s'enlever autre mesure.
Alors, on va prendre conscience qu'il nous a également rejoint à ce niveau du débat. Confiance, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Mbote Jambo, à tous les Okapistes de la Radio de la Paix.
Et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
En fait, je voudrais parler dans le sens de ces retraits qui sont motivés selon les pays. Mais moi, je pense quelque part que les États craignent parfois la privation d'une partie de leur souveraineté. Mais ces mêmes États devaient savoir aussi que notre pays a été créé justement pour les États ayant un appareil judiciaire faible, ne pouvant pas juger les crimes de sa compétence. Personnellement, ma crainte est de peut-être la politisation du procès, comme celui de certains procès de l'université. Bon, il est vrai que pour Bemba, les cas étaient vraiment évidents, mais nous nous sommes toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il a toujours été jugé, condamné, retenu, sans que la seconde partie, donc la partie qu'il a invitée pour assistance, ne soit jugé. C'est là où nous disons, la plupart des gens disent que c'était un procès politique. J'aurais souhaité que les États membres qui souhaitent quitter la CPI soient des modèles de démocratie et de justice. J'accepterais que les États-Unis, par exemple, ne soient pas membres, parce que les États-Unis peuvent eux-mêmes, je ne pense pas qu'aux États-Unis on peut avoir des crimes de grande ampleur comme chez nous en Afrique. Si les Africains sont beaucoup plus bénéficiaires de la CPI, c'est parce qu'ils sont aussi, dans la plupart des cas, ceux qui commettent le plus des crimes contre l'humanité. S'agissant des crimes contre l'humanité, qui sont le fait de lancer la CPI, nous pouvons faire remarquer ce qui se passe en Syrie, qui reste impuni depuis des années. Il y a l'intervention de l'Occident dans la déstabilisation de la Libye et l'assassinat de Muammar el-Kadhafi, qui jusqu'aujourd'hui est toujours à genoux. C'était l'un des pays africains qui était stable. Quel que soit ce qu'il y avait, mais la Libye était un pays que les Occidentaux enviaient. Il y a des Occidentaux qui venaient travailler en Libye. Mais ce qui s'est passé pour l'assassinat, moi j'appelle ça l'assassinat de Muammar el-Kadhafi, est aujourd'hui à la base de ce qu'on est en train de craindre. L'insécurité et tout ce qu'il y a comme le terrorisme. Mais la Cour pénale est devenue comme un instrument de terreur en réalité, qui commence à faire peur aux dirigeants uniquement, ou une grande partie africaine, qui commence à considérer que tant qu'ils seront au pouvoir, ils ne seront pas inquiétés.
Vous dites que c'est comparé à un instrument de peur, mais il y a Kevin qui disait tout à l'heure que c'est non événement dès lors que on se décide de quitter, c'est prévu déjà dans le statut des Roms, mais il y a un autre volet de choses. Parce que le statut des Roms donne aussi des prérogatives au Conseil de sécurité des Nations Unies de pouvoir saisir la Cour dès qu'on constate un cas, par exemple, des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité, par exemple. Donc, ce n'est pas une façon de se dédouaner, même si certains dirigeants voudraient bien s'esquiver ou échapper, mais ça ne sera pas total dans la mesure où, même par une autre personne, dans la procédure de saisie, le Conseil de sécurité peut aussi saisir pour le cas des crimes contre l'humanité.
Oui, en quelque sorte, c'est comme nous disons, un malin, Denis, en y entrant, il ne savait pas qu'en y sortant, on l'était.
Il y avait déjà le... oui.
Donc, c'est dans ce sens-là même. Oui. Donc, c'est tout à fait normal, même si on déclarait de sortir aujourd'hui. Mais il y a ces lois-là qui vont le suivre. Donc, j'aurais souhaité à ce que ces pays-là, pour l'Afrique du Sud, je comprendrais, il y a un problème de souveraineté pour ne pas avoir arrêté ce président-là qui est venu. Mais diplomatiquement, ce n'était pas correct. Mais pour d'autres pays qui ne sont pas des modèles de démocratie et de justice, moi, je crains, je me rends compte que c'est un coup d'épée dans l'eau.
Voilà. Est-ce que vous pouvez faire une analyse, confiance, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même parmi les Africains, des pays, des États qui sont prêts, par exemple, à quitter la CPI par rapport à l'efficacité de leur justice, quoi, de leur appareil judiciaire.
Bon, en fait, je n'ai pas une analyse exacte, mais je pense que le malaise est en train d'entrer dans certains pays. C'est juste un courant qui est en train d'avancer. Mais il y en a, même s'ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais d'une manière tacite. Le fait de dire quelque part que la Cour est partiale, c'est aussi une façon de quitter. Donc on n'est pas d'accord par ce qui est en train de se passer. Oui.
Merci beaucoup,
c'est une façon tacite de dire que nous quittons.
Merci beaucoup. Alors, donc, nous craignons donc les pays suivis, mais dans les jours à venir, que d'autres pays puissent emboîter d'abord pas à la Gambie, au Burundi et à l'Afrique du Sud. Vous l'avez dit, c'était l'Afrique du Sud, parce que là, il y a la question sur la souveraineté. Maître Olivier, vous êtes à Guadeloupe, bonjour.
Bonjour M. Gilles, et bonjour également aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
M. Gilles, par rapport à la thématique du jour, je dirais qu'il vit l'ampleur de la situation que nous traversons. Nous analysons bien vrai que la Cour internationale aujourd'hui est en défaveur des Africains. Parce que la plupart des justiciables qui sont déférés au niveau de la Cour ne sont qu'en majorité des Africains. Le balance juridique n'est pas au point d'égalité. Cela va en faveur de l'Afrique. C'est là où ça choque la conscience juridique. Si on fait l'analyse par rapport à ce qui se passe en Syrie, par rapport à l'assassinat même de Kadhafi commandité par la France, on comprend vraiment qu'il y a du choc du point de vue juridique. Alors, si maintenant nous voulons mettre l'accent sur le traité, sur le retrait du traité, il est bien vrai qu'il y ait quelque part prévu le retrait du traité, le retrait au niveau de la Cour, tant mieux que ce retrait n'est pas exprimé en termes clairs, mais la Cour prévoit quand même dans des circonstances exceptionnelles qu'on peut se retirer, facilement à l'organisation internationale. Même si nous allons plus loin, la doctrine a même envisagé la possibilité d'un retrait par voie d'accord entre États intéressés et les autres États membres. Mais il faut même sans doute aller plus loin, encore admettre qu'un État peut invoquer sa souveraineté pour se retirer unilatéralement. Mais c'est pour encore des circonstances exceptionnelles, telles que le cas de l'Indonésie en 1965, même le cas de la France en 1966. Mais ce qui est clair en définitive, c'est que le retrait à la Cour n'est pas une façon de s'échapper aux sanctions internationales ou encore une façon de se dédouaner, car les conseils de sécurité en disposent de possibilités de sanctionner le cas qui s'est méconduit par rapport aux réalités de la Cour. C'est la raison pour laquelle moi, au lieu de demander aux États de retirer de se retirer à la cour. Moi, je demanderai au contrôle d'État de pouvoir fédérer pour renforcer l'efficacité de chambre spéciale telle que était le cas des Dakar. Moi aussi, je demanderai de deuxième aux États de pouvoir respecter en principe aussi la démocratie, puisque la plupart des dirigeants africains ne respectent pas la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle il y a des sanctions au niveau de la Cour internationale. Alors, si les États arrivent à se fédérer pour renforcer l'efficacité juridique d'une chambre spéciale, pouvons aussi sanctionner le dirigeant africain qui se méconduit aux règles de la loi. Si les États arrivent aussi à respecter la démocratie en Afrique, ça pourrait permettre aussi à faire avancer les choses au lieu de demander le respect au niveau de la société.
Merci beaucoup, Maître Olivier. Là, vous avez rejoint pratiquement le point de vue et des confiances que vous avez appelé de Kinshasa et aussi d'Alain Bourgeois qui disait qu'il est vrai que certains agrégats attestent l'impérieuse nécessité d'avoir une juridiction internationale, mais la CPI a terni son image. La question de la CPI ne doit pas seulement être prise dans son respect, dans son aspect donc juridique ou juridictionnel, mais également politique. Cette cour est une instance juridictionnelle supranationale, ainsi pour dire que ces actes ont une suréminence donc sur des options politiques internes. En d'autres termes, aujourd'hui, la CPI n'est rassurée pas. Merci beaucoup, Maître Olivier, d'avoir appelé des bonnes unités. Antoine, vous êtes à Goma, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, JR, je salue les
auditeurs qui participent à ce débat.
En place. Allô?
Oui, quel est votre commentaire, Antoine?
Oui, bon, en ce qui concerne l'invité, je ne le sens pas vraiment. Il ne me convient pas. C'est comme s'il ne veut pas monter du côté négatif. Et quand on fait l'analyse, il faut monter du côté positif et négatif et concilier les deux pour trouver une solution. Vous savez, le problème de la Cour, la plupart des pays africains ont signé des TGS vers les années 2001-2002, pendant que l'Afrique tout entière était tellement en guerre. Et les dirigeants en place se sont précipités pour signer, croyant que on va traquer, disons, leurs adversaires. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils ont oublié que même ces pays-là, il y a le principe de respect de l'homme. Et dès que vous touchez à ce principe-là, vous avez des problèmes avec des pays occidentaux, même en ce qui concerne l'aide au développement. Vous voyez, c'est lié avec le principe des droits de l'homme. Alors, ce que moi je peux montrer, c'est quoi? Parce que je suis en train même de faire un travail sur le droit international, gage de paix, de développement harmonieux dans les relations internationales. Je suis en train de montrer, disons, il y a deux systèmes. Il y a le système horizontal et vertical. Donc, horizontal est nord-sud, vertical est-ouest. Nous trouvons que dans ce coup, comme mes prédécesseurs ont dit, il y a ce qu'on peut appeler la politique. Il y a une politique. Donc, la Cour, il y a une politique dedans parce qu'il n'y a pas la démocratie. Donc, c'est ce que nous disons toujours les internationalistes, il faut toujours démocratiser les relations internationales. Parce que si vous voyez, il y a des pays, des grands pays comme la France, Sarkozy est allé bombarder en Libye, il a bombardé en Côte d'Ivoire, il n'est pas inquiété. Il y a George Bush qui est allé bombarder en Irak, il est là tranquillement aux États-Unis, il n'est pas inquiété. Alors, tout ça, les Africains commencent maintenant à voir.
Mais Antoine, quand vous dites qu'il faudra démocratiser les relations internationales, vous êtes sans ignorer un principe en relations internationales qui dit qu'il n'y a pas des États amis, il n'y a que des intérêts qui priment.
Oui, bien sûr, mais il y a des intérêts qui priment, mais il y a des principes au niveau international. Il faut les respecter. Il y a des principes.
Lesquels?
Pourquoi on voit même des présidents des pays sous-développés la plupart des fois, mais ne respectent même pas leur constitution. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même au niveau international, ils bafouent leurs droits.
Oui, mais aujourd'hui, tous ces États, si nous lisons leurs mobiles, les motivations qu'ils exprimaient pour ces retraits, dans la plupart des cas, c'est comme si, bon, non seulement on évoque l'aspect partialité de la CPI qui ne juge que les Africains, mais il y a aussi d'un côté, disons, la privation de leur souveraineté. On veut en priver des Juifs de leur souveraineté. C'est la question de la souveraineté qui est en à tout moment.
Non. Moi, je pense qu'il y a qu'on prive la souveraineté. Pourquoi? Parce que même l'invité a dit que la Cour est venue pour, je pense, compléter C'est-à-dire que au niveau des pays sous-développés, s'ils n'arrivent pas, s'ils ne sont pas compétents de faire le jugement, la Cour prend la place. C'est pour cela que nous avons appel aux pays africains ou à nos dirigeants de pouvoir aussi, disons, de pouvoir bien mettre, disons, séparer le pouvoir, donc le pouvoir judiciaire aux côtés du pouvoir exécutif, de rendre le pouvoir judiciaire indépendant au niveau de la Cour. Parce que c'est ça le problème. Et c'est pour cela que j'ai dit que peut-être une cour à un couteau à double tranchant, pourquoi pas. De l'autre côté, c'est bien, l'invité a dit que on a travaillé dans notre pays, on a traqué, disons, les seigneurs de guerre, ça c'est bien, pour la population, ça protège. Mais de l'autre côté, si nous regardons au niveau international, rien ne se passe.
Tout à fait.
Rien ne se passe.
Alors,
donc, la démocratie, ça se trouve au niveau, comme moi je suis en train d'écrire un livre, un travail, la démocratie, c'est au niveau vertical.
Du vertical, ouais.
Et au niveau du axe, dans le système vertical, le système horizontal, il n'y a pas la démocratie. Non, aussi, il n'y a pas la démocratie.
Merci beaucoup, Antoine, voilà, d'avoir appelé. Alors, parce que vous avez insisté beaucoup plus sur la démocratisation des relations internationales, c'est une préoccupation ouais. directe. Alors, Maître Kouji.
Oui, j'aimerais tranquilliser notre ami de Goma, M. Antoine. Nous ne sommes pas les défenseurs de la Cour, mais on essaie d'analyser froidement la question. Parce que pourquoi la Cour a été créée? La Cour a été créée, comme nous l'avons dit, pour décourager les crimes odieux, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, et aussi pour supplier aux insuffisances du système judiciaire national. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'en Afrique, il y a beaucoup de services de la Cour internationale. Parce qu'en Afrique, on trouve des problèmes de déficit de démocratie, comme il a dit lui-même. En Afrique, on trouve beaucoup de crimes, hein, de ce genre. C'est en Afrique que l'on trouve le déficit. De simplifier. Voilà pourquoi la Cour est encore indispensable. Donc nous ne sommes pas là pour défendre la Cour. Nous savons que dans ce qui est dit, il y a des choses qui peuvent être discutées, mais nous disons qu'à l'heure actuelle, la Cour est encore indispensable.
Indispensable pour tous les pays africains ou il y a d'autres qui ont déjà fait des avancées quand même très significatives. Nous venons de parler tout à l'heure de citer les cas du Sénégal.
Oui.
Et l'Afrique du Sud, pour les cas d'espèce, on évoque beaucoup plus la question sur la souveraineté, vu qu'ils ont refusé de s'appeler à l'instruction de la CPI pour, disons, livrer un président qui avait des contentieux.
Justement, c'est le Sénégal, mais vous n'inspirez pas trop. Donc, il y a encore des problèmes chez nous. Mais même le Sénégal, pour ce Sénégal, le Sénégal a eu besoin de l'aide pour organiser le procès de Sénabré. Donc, ça veut dire que le Sénégal, à lui seul, ne pouvait pas organiser correctement ce procès. Donc, il y a encore du travail à faire. Nous pensons que pendant que nous travaillons, la Cour peut encore nous soutenir.
C'est pourquoi d'autres disent que c'est des manœuvres dilatoires pour certains. Un président africain pour se recroqueviller, se cacher derrière des crimes qui ont été auteurs, par exemple.
Oui, tout à l'heure, on a parlé de la Cour comme étant un instrument de terreur. Mais nous disons que la Cour théorise qui? Parce qu'elle théorise les États.
Dans l'état actuel, on a l'impression que ça commence à théoriser les certains chefs d'État.
Attendez.
Africains.
Alors, ça, c'est un autre débat lorsqu'on parle des chefs d'État.
Oui, Antoine, vous êtes avec nous? Oui, Antoine.
Allô?
Oui, vous voulez encore réagir?
Oui. Oui, bon, je n'ai pas bien suivi l'invité.
Oui, donc il oui, parce qu'il y a tout à l'heure, quand Pierre parlait, oui, tout à l'heure, quand Pierre a comparé la Cour comme une Cour de terreur qui terrorise les gens en Afrique. Alors, on se posait la question, mais la Cour terrorise qui? Est-ce que ce sont les dirigeants ou les populations?
Est-ce que vous me captez?
Voilà, on a des soucis avec votre ligne, on s'entend difficilement. Alors, on va prendre Maître Sauville. Maître Sauville, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat. Bonjour, vous êtes à Lubaki.
Oui, bonjour, M. Gir. Bonjour à tous les membres auditeurs de Radio Capi. Bonjour à notre invité. Sans plus tarder, je dirais que la décision de ce pays africain n'est qu'un échappatoire à la justice internationale. Parce que, M. Gir, vous savez que si on consolidait le système judiciaire national, on peut peut-être pas se rendre au niveau de la CPI. Et si aujourd'hui, sur 10 détenus, il y a 9 Africains, c'est à la demande même des États africains qui les ont transférés au niveau de la CPI. Quand la Côte d'Ivoire arrive, disons, avec Mme Bagbo, elle est jugée au niveau de la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, nous pourrons dire que le monde a besoin de justice universelle, et la Cour pénale internationale, c'est le tribunal international qui est permanent. Et ce tribunal international qui est permanent est en train de sauver l'humanité. Puisque son problème, c'est de s'attaquer au génocide, crime contre l'humanité et consorts. Mais, si aujourd'hui nous prenons l'exemple du Congo, il n'y a pas longtemps, M. Gilles, nous avons parlé sur votre chaîne, la libération de M. Gédéon, qui a commis des crimes contre eux, et qui a été accueilli en pompe ici à Lubumbashi. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut avoir confiance en notre justice? Pour ne pas se limiter là-bas, la Cour constitutionnelle qui a siégé, qui a donné même son règlement, son propre règlement d'ordre intérieur à son article 90, est-ce que nous pouvons avoir confiance à cette justice? Et cette justice au Congo n'est compétente que lorsqu'on poursuit nos opposants. Mais s'il s'agit des gens de l'unité du pouvoir, cette justice ne passe absolument rien. Et pour cela, moi j'appuie la Cour internationale, la Cour pénale internationale, qu'elle continue. Et d'ailleurs, il est dit dans le texte d'organisation de cette Cour, même le retrait là n'est pas immédiat. La Cour pénale internationale doit continuer dans ces prérogatives là. Elle doit continuer à bien gérer les pays africains. Si aujourd'hui,
quand vous parlez des échappatoires, mais on sait tout de même que il y a certaines dispositions verrouillées quant à la procédure des saisines. Il y a le Conseil de sécurité qui entre aussi en jeu. Donc vous dites que malais 2000, comme disait notre invité et aussi un auditeur tout à l'heure.
Si nous prenons le sujet, par exemple, l'exemple du Burundi, le monsieur a tué des gens. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Il y a même eu des enquêtes au niveau du Burundi. Et c'est pour cela qu'il veut s'échapper de la Cour internationale. Or, le retrait ne peut se faire que dans une année. Et si nous pouvons encore continuer à s'échapper, le problème de la Gambie. Le président de la Gambie, c'est un grand dictateur. Il a plus de 20 ans au sommet de son pays. Et d'ailleurs, la dame qui est aujourd'hui la présidente de la procureure de la Cour pénale internationale, c'est une Gambienne qui fut même ministre de justice. Quel contraste! Moi, je dirais ceci, monsieur Gilles, que nos chefs d'État africains ne puissent pas vouloir toujours seigner avant la population. S'ils améliorent leur comportement, s'ils respectaient les délais constitutionnels, les mandats, s'ils respectaient les libertés fondamentales ignorantes à la personne humaine, ils ne seront jamais poursuivis, c'est simple! Est-ce qu'aujourd'hui, un monsieur comme vous l'avez dit, le président du Sénégal, même les deux présidents, le président et le vice-président du Kenya, quand ils étaient convoqués, ils sont rentrés. Ils ont brandi leurs éléments de défense. Mm-hmm. Ils ont été graciés. Ils sont rentrés. Si aujourd'hui, les pays africains veulent se retirer, c'est pour implanter la dictature. Mm-hmm. Et à ce côté-là, ça se voit avec moi qu'il y a une délégation de la CPI ici au Congo pour enquêter sur ce sujet-là.
Merci.
Et cette enquête a commencé depuis 2004.
Merci, Maître Sauville, d'avoir appelé et d'avoir contribué à votre réaction, Maître Kondi.
Oui, nous partageons totalement ce que le confrère Sauville dit. Nous pensons qu'aujourd'hui, on ne peut pas, outre mesure, tirer sur la Cour. Ça dépend de quel côté on se trouve. Pour les victimes qui attendent réparation, la Cour c'est une très bonne chose. Et pour les bourreaux, c'est certainement un autre son de cloche.
Imaginez une scène un référendum dans certains pays africains pour les retraits ou non de la CPI, de leur pays. Et est-ce que, ça rencontrerait quand même beaucoup de oui?
Je ne pense pas qu'un dirigeant africain prenne le risque d'organiser
le référendum.
Nous ne ferons pas parce que nous pensons que les populations africaines encouragent totalement la communauté internationale.
Voilà. Alors, on va prendre Maître Sabouli, on va terminer avec lui, et puis on revient à vous pour la conclusion, Maître Okunji Emmanuel. Maître Sabouli, vous êtes avec nous à Sagali, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Quelle est votre contribution?
Je voulais dire que plusieurs. Oui, les présidents africains croyaient que la Cour est leur tient de tête. Or, ce n'est pas le cas. Je veux dire que la Cour pénale internationale est purement politique. Parce que si nous voyons la Cour, sur 7 dixièmes, les dossiers sont traités politiquement. Tandis que les 3 dixièmes sont traités sur les dossiers du droit. Nous allons prendre. La Cour doit améliorer aussi notre de peine. Parce que les peines sont très légères, de la raison pour laquelle beaucoup s'agrandent à ce livre lui-même. Sans même être appréhendé. Il a dit non, comme le Cour, comme les peines sont légères, il s'est rendu lui-même pour être au niveau de la Cour. après 10 ou 12 ans, il sera relâché, il sera libre de ses droits. C'est la raison pour laquelle nous disons la Cour doit tenir aussi compte de la jurisprudence. Parce que la Cour a traité entre Jean-Pierre Bemba et Thomas Lubanga. La Cour a demandé à Jean-Pierre Bemba de payer ses avocats, tandis que Jean-Pierre Bemba et Thomas Lubanga sont ceux qui sont prévenus. Tandis que la Cour a demandé que Jean-Pierre Bemba est riche, Jean-Pierre Bemba doit payer tous ceux qui sont avocats, tous les anciens des avocats. Tandis que vous, les étudiants de jurisprudence, on a traité tous les prisonniers égaux.
Merci. Voilà. On va pas aller plus loin avec vous, maître Sabouli, parce que le temps nous allons, on va accorder quand même un dernier mot à notre invité, maître Kounji Emmanuel. C'est vrai, mais on ne peut pas s'acquitter, hein, sans pour autant qu'on fixe quand même l'opinion sur certaines choses. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où certains présidents africains signaient cet accord, l'éditeur se pose d'abord la question, est-ce qu'ils étaient aveuglés ou pensaient que, comme l'Union africaine travaillait dans le sens de condamner la prise de pouvoir par la force, par la guerre, c'était une façon de traquer juste les rebelles ou de condamner les insurrections. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi en leur défaveur. C'est pourquoi il faut quitter vite avant que les batailles vous quittent.
Il est possible qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, n'oubliez pas qu'il y a un agent d'État qui a été condamné, tout au moins qui est en procès. Donc nous pensons que les gens. Il est possible qu'il soit ça la motivation de certains, mais à l'heure actuelle, nous ne le dirons jamais assez, la Cour a encore besoin de la Cour pénale internationale pour sécuriser les populations, pour décourager des guerres, et nous pensons que cela est encore indispensable.
Voilà, maître Kounji Emmanuel, merci d'avoir été des nôtres, hein, et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio, et à très bientôt.
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme où Gilly César Bongunda était au standard. J.R. Lungembo Labou Angé, le plaisir des coordonnées présentées sous la supervision de Martin Sebou Janguet. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.